Vous écoutez
RMC. RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Oh, we go to fish. Huh?
Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là. Jusqu'à minuit, encore une heure avec Damien Perrinel, avec François Manardeau. C'est vrai qu'on pourrait évoquer également l'anglais de nos entraîneurs et présidents français. La maîtrise de l'anglais.
Ouais, ça c'est une vraie tare. Ça, ils le reconnaissent.
Ils le reconnaissent. C'est national. Hein. Et pas que, hein. C'est français, hein. C'est global.
Bon, là, pour parler de parfois des difficultés, de certaines difficultés à l'exportation de nos entraîneurs, c'est vrai que le problème de la maîtrise de la langue étrangère, et l'anglais principalement, essentiellement, est un défaut. Un défaut franco-français.
Bien évidemment. C'est-à-dire qu'on se plaint que nos entraîneurs ne s'exportent pas, mais déjà faut-il avoir le langage pour pouvoir s'exporter. Et encore plus de nos jours, quoi, où l'anglais est une langue. Voilà, tout le monde sait parler anglais.
Il n'y a pas besoin d'expliquer.
Voilà, c'est trop dur.
Messieurs, on a un invité. Cédric Mensah est avec nous. Salut Cédric.
Bonsoir.
Ancien gardien de Laval, du Mans, de Monté avec le Mans.
Exactement, de Monté.
On était tout à l'heure avec ton ancien coach qui a perdu aujourd'hui face au Racing Club de Lens. Colmar également, le Paris FC, vite fait, l'équipe B de l'Olympique de Marseille.
C'est ça.
Voilà pour la carrière. Aujourd'hui, joueur en recherche de club.
Exactement.
À l'UNFP.
C'est ça. Donc aujourd'hui, je suis à l'UNFP, exactement. Et donc je m'entretiens avec le groupe en espérant trouver rapidement un challenge. Donc voilà, on est prêt, on joue des matchs, on se prépare et puis en espérant qu'il y ait le téléphone qui sonne, quoi.
Et bien sûr, international togolais, hein, 19 sélections avec l'équipe nationale du Togo. On a reçu deux collègues à toi désormais, deux potes hein, du stage UNFP, Billy Ketkofonfon et Mohamed Larbi. D'ailleurs, Mohamed Larbi a marqué un but, on va le dire, hein, magnifique contre Créteil il y a deux jours, une frappe pleine lucarne.
Exactement, il a mis un très beau but. Bah après, on connaît la qualité technique de Momo, on la voit tous les jours à l'entraînement. Et on l'a vu aussi sur ce match-là, où sur un coup d'éclat, il est capable de débloquer la situation.
Voilà pour Mohamed Larbi hein, qui nous envoie des messages régulièrement sur Twitter. Vous voyez son but d'ailleurs sur la page After Foot, celui de Mohamed Larbi. Pourquoi tu es là Cédric? Tu n'es pas seul. On va évoquer un thème qu'on évoque souvent mais qu'on développe pas souvent. Le football, les footballeurs et la communication. La saison de Ligue 2 a repris, celle de la Ligue 1 la semaine prochaine. Et il n'y a pas de raison que ça change, les interviews devraient ressembler à ça.
Encore beaucoup de matchs, on va les prendre les uns après les autres.
Donc il fallait qu'on prenne les trois points ce soir, c'est ce qu'on a fait avec la manière.
L'important c'est l'essentiel. Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Débuter un match en football c'est toujours 50-50.
Eh oui, c'est aussi ça le
foot, hein. Sport, du football en particulier.
On a pris une très bonne option.
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Il faut prendre, je pense, les matchs les uns après les autres et puis par la suite.
Ça, c'est le plus important, de gagner, de porter les trois points à la maison.
Pour nous, le plus important était de gagner le match.
Mais c'est ça le foot.
Pour gagner les matchs, il faut marquer des buts.
Voilà les formules consacrées, les poncifs. Non mais c'est vrai.
Ouais, mais comment on fait après? On peut plus faire de jingle pour l'after. Du coup, du générique.
T'as raison, c'est ça. Nourrir les jingles de l'after.
Ouais, il y en a, ils pensaient pas tous au jingle. Moi j'ai connu un sélectionneur de l'équipe de France féminine. Le ballon il est rond et il est rond pour tout le monde.
Bruno
Bini.
Exactement,
Bruno
Bini.
Il faisait souvent, c'est vrai.
Pourquoi les footballeurs, certains footballeurs, je précise, hein, sont-ils devenus ennuyeux face à la presse? De quoi ont-ils peur? Pourquoi ils ne disent pas plus grand-chose face aux médias et font parfois n'importe quoi sur les réseaux sociaux? Également, on en a vu encore un exemple tout récent, tout frais avec Clinton Ngie. Et si c'était le footballeur tiède, c'était la faute de nos invités, peut-être. Pas toi Cédric, hein?
Ah ben j'espère pas quand même.
Peut-être des conseillers en communication.
Non, après je pense que voilà, c'est toujours compliqué de s'exprimer devant une caméra, surtout après un match, parce que on est un peu à chaud. Donc
ouais, mais il y a pas qu'après les matchs, les entretiens également à froid, tu vois. Oui. On va évoquer. Non mais ça peut être aussi la faute des journalistes, hein, effectivement, et de la masse de journalistes désormais qui entourent les joueurs. Il y a tellement d'enjeux. On va évoquer tous ces thèmes-là. Pourquoi? Comment faire autrement? Comment mieux travailler ensemble? Peut-être journalistes, footballeurs, entraîneurs, président de club aussi. On est au téléphone avec Guillaume Stéphane. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Je précise quand même, vous êtes le frère de Julien Stéphan, coach du Stade Rennais, et le fils de Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, responsable du passeport pro. Vous allez nous dire ce que c'est dans un instant. Vous êtes accompagné également de Sébastien Pietri, animateur du passeport pro dans différents clubs. Merci Sébastien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous m'avez trouvé un petit peu provoque dans ma présentation ou pas ? Est-ce que c'est une réalité quand même ?
Non, vous avez bien abordé le thème. On va faire en sorte que effectivement, il n'y ait plus de jingle RMC. On va essayer de faire en sorte qu'il évite les petits lapsus. Ça va être sympa.
Bon, et Cédric, donc tu es là pour en parler également, la difficulté de répondre parfois à la presse, et également l'image, le souci de l'image des footballeurs aujourd'hui avec les réseaux, le danger que représentent les réseaux sociaux. Ce qui est bien, c'est qu'on a également François Malardeau ici, dans l'after ce soir, ancien chef de la presse à la Fédération Française de Football et de l'équipe de France.
Ouais.
Hein, donc on va évoquer ensemble
et sur la panoplie com, pardon je le fais rarement, mais tu peux rajouter que j'avais conseillé Michel Platini pour son élection à l'UEFA en 2006-2007 qu'il a gagné là pour le coup, parce que bon, après l'Afrique du Sud c'est pas un bon souvenir.
Oui, c'est aussi toi. Non, c'est pas que toi évidemment. Il paraît qu'il faut faire toujours une référence dans chaque after quand t'es là à Naïsna. C'est ce que réclament les auditeurs de l'after.
Pas la peine.
T'as vu le rire gêné là? Le rire gêné.
C'est pas la peine.
Guillaume Stéphan avec nous. Déjà démarrons par la question simple, hein. Qu'est-ce que le passeport pro?
Alors passeport pro, c'est vrai que là ce soir j'ai l'impression qu'on va faire un focus particulièrement sur la communication. Mais nous, il y a deux ans, à l'UNFP, enfin le président de l'UNFP, Sylvain Castendutch, a souhaité créer un groupe de travail en interne pour que justement on se pose des questions sur comment accompagner les jeunes pros notamment, ou ceux qui sont en passe de signer pro, je pense aux stagiaires qui sont dans les centres de formation, avec un constat assez simple, c'était au centre, les jeunes sont plutôt bien entourés, ils sont accompagnés en permanence, mais ensuite à 18-19 ans, les jeunes joueurs découvrent certes le plaisir d'être indépendants lorsqu'ils peuvent habiter dans leur premier appartement, mais ils doivent gérer aussi eux-mêmes leur alimentation, leurs finances, leur communication, leurs réseaux sociaux. Il y a un entourage aussi qui peut être différent. Donc on a souhaité, c'est pas forcément évident pour eux, et donc on a souhaité créer 11 modules de formation, dont dedans le média training et aussi comment mieux gérer ses réseaux sociaux. Mais il y a 11 modules en tout, répartis dans trois grandes thématiques. Apprendre à communiquer, donc dedans il y a les modules que je viens de citer. Le joueur salarié aussi et ses conséquences. Et également on a un module sur la diététique et la nutrition. Donc voilà, vraiment l'objectif c'est accompagner les joueurs et principalement les jeunes joueurs, aussi bien dans leur vie d'homme que dans leur carrière professionnelle.
Et c'est vrai que ce qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment les footballeurs et la communication, la difficulté à bien communiquer face à la presse. Sébastien Pietri, donc animateur, vous, du passeport pro, vous intervenez dans différents clubs, c'est ça? Vous apprenez aux jeunes joueurs comment répondre aux interviews avec des cas théoriques et pratiques.
C'est ça, exactement. Je suis journaliste, j'ai été journaliste moi-même pendant 18 ans. Et aujourd'hui, donc effectivement, je travaille en collaboration avec l'UNFP. Et le projet qui a été mené, comme le soulignait Guillaume à juste titre, c'est aussi d'aider les jeunes footballeurs et surtout changer un petit peu les préjugés des gens extérieurs qui jugent très rapidement nos jeunes joueurs qui ont du mal forcément au début à s'exprimer devant la caméra, mais ce qu'on explique, à 17 ans, 18 ans, se retrouver devant une caméra, des micros, et réussir à s'exprimer, c'est pas donné à tout le monde. Donc Passeport Pro et notamment le Media Training, on est là pour les aider. Alors non pas en faire des journalistes, mais leur donner des bases en communication. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce module Media Training qui s'articule autour de 2 x 3 heures ou 3 x 2 heures. Il y a une partie théorie. J'aime pas trop parler de théorie, mais je suis obligé effectivement de leur montrer des exemples de communication qui ont été faits ces derniers mois auparavant, et discuter avec eux. Et ensuite une partie de mise en situation où là je les mets devant la caméra et je les interview un peu plus longuement.
Damien Perrinel également, hein, t'as été joueur pendant plus de 14 ans. On préparait l'émission ensemble, tu m'as dit c'est sûr, il faut arriver à sortir de l'image du footballeur également. Il y a tellement d'a priori sur les footballeurs.
Exactement, et c'est la mission justement de chacun des joueurs, des footballeurs qui sont interviewés, et même au-delà de ça, de l'image qu'ils peuvent renvoyer au grand public. Combien de fois je me suis retrouvé dans des soirées, des restaurants, et on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que moi j'étais pas ultra connu, et je disais tout sauf footballeur. Et donc là, ça veut
pourquoi
dire.
Pourquoi?
Mais parce que de toute
forme de complexe.
Il y a forcément un préjugé. Quand on dit que tu es footballeur, on dit ah tiens c'est un mec, donc soit il est riche, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer, qui n'a pas d'idée sur la vie en général et qui reste que dans le football. Et au fur et à mesure que la discussion s'engageait, et bien sur la fin je disais mais tu sais qu'en fait non, je t'ai menti, je suis footballeur. Et là, ah mais tiens t'es pas comme tous les autres toi. Mais si je suis comme les autres, mais c'est juste que le footballeur a une mission, c'est de renvoyer une bonne image, de s'exprimer correctement. Et de sortir vraiment de ce cliché, d'aligner toujours les mêmes phrases, les mêmes mots, d'avoir les mêmes attitudes devant une caméra. Ça se travaille tout ça, c'est de l'image, et ça ferait du bien justement, je pense, pour la majorité, pour le football en général.
Cédric.
Oui, exactement.
D'accord avec ce que dit Damien.
Oui, je suis totalement d'accord parce que, comme il le dit très bien, même si voilà, moi aussi je suis pas connu, quand on me demande ce que je fais, c'est vrai que c'est toujours compliqué de le dire tout de suite parce que les gens tout de suite se créent une image et ont des a priori. Alors que quand on prend le temps de discuter, d'apprendre à connaître la personne, c'est vrai que là ils se disent ah ben en fait ouais, on se rend compte que c'est pas tous les footballeurs qui sont comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème d'image au niveau du footballeur professionnel aujourd'hui. Et les gens pensent vraiment que c'est une personne qui est dans une cage dorée, entourée d'argent et qui a pas fait beaucoup d'études et
qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas.
Exactement.
Mais alors, c'est un complexe qui est répandu dans le milieu du foot quand même ou pas, parmi vos camarades, vos confrères, vos collègues.
Mais après ça dépend, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui essayent de passer au-dessus et il y en a d'autres justement à qui ça crée, on va dire oui, des complexes et qui même, on va dire, se replient sur eux-mêmes et en deviennent même un peu farouches, c'est-à-dire que ça devient un peu compliqué pour eux quand ils se retrouvent face à, par exemple, à des journalistes ou à des gens parce qu'ils se disent bon, ben, de toute façon, je vais être jugé. Donc, ils se créent déjà une carapace, une coquille et donnent l'impression d'être un peu inaccessible ou d'être hautain alors que pas du tout. C'est juste que.
Il y a de la timidité peut-être.
Là, c'est ça, il y a de la timidité. Et puis, comme Sébastien l'a très bien dit tout à l'heure, c'est des jeunes joueurs aussi qui n'ont pas forcément eu l'accompagnement nécessaire. Moi, je sais qu'en tout cas, par exemple, ce passeport pro, j'aurais aimé l'avoir étant plus jeune. Je sais que ça.
Parce que tu as suivi les ateliers également, voilà, c'est avec ça, Sébastien et de Guillaume.
Exactement, parce que bon, ben, il y avait les jeunes joueurs qui étaient au club qui devaient participer à ces sessions-là. Mais moi, j'avais aussi envie de participer parce que je trouvais ça très intéressant. Et c'est vrai que je me rends compte que s'il y avait eu cet accompagnement quand j'étais en centre de formation, au Girondins de Bordeaux, ben je pense que ça nous aurait beaucoup aidé. Et je pense que c'est bien que l'UNFP ait eu l'idée de mettre ça en place à travers ces sessions dans plusieurs clubs pour aider justement les jeunes à affronter au mieux ces difficultés.
Mais justement, là, donc, on peut que saluer la démarche de l'UNFP. Mais pourquoi la Ligue de foot elle-même ne prend pas ce problème à bras le corps? J'ai eu mon expérience en MLS et ce n'était pas le syndicat des joueurs qui nous donnait ces réunions. C'était la MLS. Parce que pour cette ligue.
Comme les autres ligues américaines.
Avoir un problème d'image pour un joueur qui tweet quelque chose une photo ou qui se retrouve dans une mauvaise situation, ça crée un déficit d'image pour la ligue. Et c'est pour le foot en général.
Mais je pense, moi, par rapport à ça, pour répondre un peu à ce que tu dis, c'est que ce qui est important aussi dans l'UNFP, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'anciens joueurs qui échangent avec les joueurs constamment. Et ça permet d'avoir une passerelle et de savoir à peu près les axes qui peuvent être approfondis ou exploités pour aider le footballeur professionnel de demain.
Oui, dans tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, moi, ce que je retrouve qui revient à chaque fois, c'est une forme de se justifier par rapport à son image. Et donc, son image, elle passe par le filtre des médias. Et je pense modestement que c'est déjà une première erreur que dans un développement à moyen ou long terme de son image et donc de sa communication, c'est de se concentrer autant que possible sur être authentique. Alors,
il y a des bons et des mauvais clients, hein. Il y en a, ils sont équipés à la naissance avec moteur de Ferrari, parce qu'ils sont charismatiques, parce qu'intellectuellement, ils nourrissent pas de complexe, même si ce sont pas des flèches. Regardez, le français de Thierry Henry, il est pas toujours parfait, et pourtant, on n'entend que lui, parce qu'il sait faire et parce qu'il a du charisme.
Oui,
puis ils ont un moteur de 2 chevaux. Mais vous êtes vachement concentré sur les préjugés, vous l'avez dit, Cédric, les idées reçues sur les footballeurs. Mais il y a d'abord à travailler non pas sur l'idée reçue du footballeur, mais vous, en tant que l'homme que vous êtes et le joueur que vous êtes. Moi, je pars par expérience un peu de cette vérité-là, de cette conviction-là. Pas une certitude, mais une conviction que j'ai. Sébastien ?
Oui, si je peux intervenir. Vous avez raison sur ce que vous dites, parce que c'est extrêmement important. C'est que l'UNFP et le module Media Training, on n'est pas là pour formater les joueurs.
Merci.
Chaque joueur a sa personnalité et on appuie avec l'UNFP vraiment pour appuyer sur les forces de chaque joueur pour maîtriser leur communication. En revanche, il y a un point important, c'est que là où je suis pas forcément d'accord avec vous, c'est que malheureusement aujourd'hui, avec la multiplication des médias, soit télé, internet, avec les réseaux sociaux, oui, forcément, les joueurs sont obligés de maîtriser leur communication. Parce que peut-être pas vous, sur RMC, où les journalistes faites un travail de fond, vous vérifiez vos informations.
Évidemment.
Malheureusement, c'est ce que j'explique aujourd'hui aux joueurs, oui. C'est qu'avec cette multiplication des médias, l'information n'est plus vérifiée. Ça va très vite et on peut très, très rapidement mettre à mal l'image d'un joueur. Et voilà, c'est ça aussi que c'est pour cela que les joueurs doivent maîtriser vraiment leur communication de A à Z, parce que il faut tenir compte aussi aujourd'hui des nouveaux médias qui sont en place.
Guillaume Stéphane, oui. Avec nous au téléphone, également responsable du Passeport Pro. Quels sont les principaux pièges à éviter pour un joueur devant la presse notamment?
C'est souvent à chaud qu'il peut y avoir des problèmes, je pense, et puis également sur les réseaux sociaux, tout ce qui concerne les lives, c'est là où il y a eu le plus de problèmes. Donc,
et on pense à Serge Aurier notamment.
Il y a d'autres que vous connaissez pas, et moi que j'ai rencontré dans les centres de formation et qui malheureusement ont pu se faire licencier par la suite parce qu'ils se sont laissés aller une soirée avec des copains sans s'en rendre compte, et puis que ça a fait un buzz terrible, parce qu'aujourd'hui malheureusement lorsqu'un joueur de foot fait quelque chose de pas bien, de mal, ça fait le buzz et ça a des conséquences désastreuses sur sa carrière.
Et les réseaux sociaux, pour ajouter un détail qui n'est pas un simple détail, les réseaux sociaux en plus, il y a un piège énorme pour les jeunes joueurs, mais pas seulement, c'est le piège de la prostitution via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des jeunes joueurs se font approcher via les réseaux sociaux par des nanas, mais elles sont pas toutes seules derrière, pour que les alpagues, et il y en a qui sont tombés dans ce piège-là. Je sais que le Stade Rennais, qui a pris les devants très très tôt sur la formation de ces jeunes...
Il fait d'ailleurs appel à vos services, Stade Rennais, je crois, hein. Guillaume
a mis entre autres ça en exergue, vous me dites si je me trompe, pour faites gaffe comment vous utilisez les réseaux sociaux, certes, mais comment vous êtes également approché dans les réseaux sociaux.
Oui, le Stade Rennais est le club qui a le plus pris de modules chez nous cette année, puisqu'ils en ont pris 8. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment
c'est votre frère en fait, c'est pas votre frère qui a décidé.
Ah, peut-être.
C'est pas parce que votre frère travaille au Stade Rennais, Guillaume.
Ça peut aider. Non, pas du tout. En plus, il n'était pas encore responsable de l'équipe première, donc c'était parfait.
On est dans un thème qui est hyper intéressant. Je voulais savoir également auprès de vous, Sébastien, si les joueurs étaient très demandeurs. Vous qui animez des ateliers justement de communication, ils sont à l'écoute. Ils ont vraiment conscience de l'importance de ce sujet, cette thématique-là.
Oui, c'est pas pour faire la langue de bois. Hein. Réellement, je suis très agréablement surpris par l'intérêt des joueurs et surtout cette nouvelle génération qui arrive. Ils ont conscience aujourd'hui qu'il va falloir absolument mais s'adapter à ces médias-là, qu'il va falloir qu'ils arrivent à gérer leur communication, et ils sont vraiment attentifs. Alors c'est vrai que lorsque je leur montre des exemples de communication de joueurs parfois qu'ils ont affronté, donc c'est vrai que ça fait vite réagir. J'essaye en règle générale dans les clubs où l'on se déplace d'avoir des exemples propres au club où l'on va, et c'est vrai qu'ensuite ce qui plaît énormément aux joueurs, je pense que Cédric peut-être pourra le confirmer, c'est l'atelier devant la caméra et le débrief derrière. C'est l'image qu'il renvoie. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui me disent à la fin du module média training, je pensais pas renvoyer une telle image. Je peux paraître hautain, je souris pas. Et c'est vrai qu'ils prennent conscience aujourd'hui, voilà, que l'image est extrêmement importante. Et le souci aussi qu'il y a et qu'il faut pas oublier, c'est que ce que je leur explique, c'est que les journalistes ont besoin des joueurs. Mais les joueurs aussi ont besoin des journalistes. Il faut qu'il y ait un échange. Et ce qui est important, c'est le message que je leur fais passer.
Ça c'est vraiment plus compliqué.
Il faut aller parler aux journalistes. Ça ne sert à rien de s'enfermer complètement. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut réussir à s'exprimer avec les journalistes. Et ça sera beaucoup plus facile. Vous parlez de relations entre les joueurs et les journalistes. C'est important aussi que les joueurs prennent conscience qu'ils ont besoin des journalistes aussi pour leur carrière et d'aller s'exprimer, d'aller vers eux à la fin des matchs, même quand c'est parfois compliqué.
C'est vrai que souvent, les joueurs ne gagnent jamais à se mettre à dos la presse en général, quoi.
Absolument pas.
Il y a un exemple, caricatural, typique, tu l'as connu toi à l'équipe de France, c'est Raymond Domenech, qui s'est mis la presse à dos.
Oui.
Et quelque part, qui en a subi les conséquences. Après, il a cherché. Hein.
Oui, mais bon, voilà, il l'a cherché. Moi, je reviendrai aussi sur ce que disait. Il a complètement cherché. Et évidemment, il les a trouvés. Moi, ce que j'expliquais aux joueurs quand j'en avais l'opportunité, aux joueurs en équipe de France, c'est que c'est un combat parfaitement inutile parce que
t'es perdant à l'arrivée.
10 fois sur 10, en fait, c'est la presse qui a le mot de la fin.
Et oui. Ce qui est un peu injuste finalement.
Les joueurs, les entraîneurs passent, les signatures restent.
Pour rebondir, je te coupe tout de suite, mais pour rebondir, on m'a donné un conseil, pourtant j'étais très jeune joueur. Hein,
ouais.
Et on m'a dit, ne te fâche jamais avec un journaliste.
Oui, ce qui ne veut pas dire se défroquer non plus.
C'est terrible quand même. Non, mais là, on est sur un rapport d'inégalité, voilà. Quoi, inégal, entre guillemets. Le journaliste aura toujours raison, quoi qu'il arrive à la fin finalement.
Oui, la seule exception dans l'histoire du foot français, c'est la relation entre Aimé Jacquet et l'équipe en 98.
C'est vrai.
Qui a été un renversement.
Alors il faut être champion du monde pour retourner la presse.
assez extraordinaire.
Mais la condition quand même.
Et c'est pas un bon exemple. En revanche, ce que disait, je crois, c'est Sébastien, dans la difficulté de faire entendre aux joueurs, aux footballeurs, qu'il a besoin aussi de partager dans son travail les informations, ou en tout cas d'échanger avec la presse, parce que quand vous échangez avec la presse, vous échangez pas avec le journaliste, vous échangez pas avec les journalistes, vous échangez avec vos supporters. Et souvent, j'ai vu moi les joueurs faire cette erreur-là, c'est-à-dire de focaliser, je vais parler à des journalistes. Et puis quand en plus le climat devient
que les résultats suivent pas,
négatif,
que
voilà,
les tensions au
sein du club, c'est de se payer les journalistes ou de se taire pour leur faire je sais pas payer quoi. Okay. En fait, non, c'est toujours vos supporters que vous sanctionnez. Et de penser que les réseaux sociaux prennent le relais, ça vaut quand vous en avez, vous êtes Cristiano Ronaldo, vous avez plusieurs millions de followers. Mais pas quand vous êtes la majorité des joueurs.
En tant que joueur dans un vestiaire, parfois quand tu parles trop à un journaliste, t'as aussi le regard de tes coéquipiers qui est là et qui dit, ah, mais toi, tu parles trop aux journalistes, ou tu fais trop le faux cul avec les journalistes, et ainsi de suite.
Ouais, mais alors celui qui va te dire qu'il parle trop, c'est celui qui va balancer les infos off.
Peut-être.
Ça arrive aussi. C'est possible.
Mais cette image-là, il faut faire attention dans les vestiaires aussi.
Et même pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'à un moment donné, les footballeurs, on se rend pas compte que, ou certains même se rendent pas compte que quand ils s'expriment face à un journaliste, ils ciblent le journaliste, alors que les supporters, eux, ils s'en foutent en fait.
Exactement. Donc, le journaliste, c'est juste un intermédiaire, un médium, un média entre les supporters et l'équipe.
T'as des journalistes aussi, ils se prennent.
On peut pas dire que le footballeur est coupable avec le journaliste.
Des fois, tu vas en boîte de nuit, tu vois le journaliste et le joueur parce qu'ils se connaissent, tu sais plus qui
c'est. C'est passionnant. On revient dans un instant, bien sûr, pour évoquer ce thème, les footballeurs et leur communication. Guillaume Stéphan, responsable du Passeport Pro. Sébastien Pietri, animateur, et Cédric Mensa, gardien de football professionnel, sont avec nous en compagnie d'Amien Perrenet et François Malardo. L'after est là jusqu'à minuit, à tout de suite.
Si je pouvais me sélectionner, je jouerais, je vous assure.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là, comme tous les soirs à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, 23h26. On est avec Damien Perrenel, on est avec François Malardo et également avec Cédric Mensa, gardien de foot professionnel qui cherche un club, c'est important de le préciser.
Exactement.
Hein, Cédric,
en Ligue 2, nationale, voilà.
L'étranger aussi.
Ouais, l'étranger aussi.
Donc voilà, je suis prêt à écouter les propositions qui se présenteront. Et je tiens à préciser que je suis international aussi togolais.
Et oui.
Et que j'ai fait la CAN en 2017.
On l'a dit, effectivement, voilà. 19 sélections avec les éperviers.
C'est ça, du Togo.
Du Togo, exactement. 30 ans seulement, voilà. 1m85, voilà, pour former au Jardin de Bordeaux.
C'est ça, exactement.
Oui, également, passé par Marseille. Mmh. Et puis, on l'a dit, en Ligue 2, en National, surtout avec Le Mans. Mmh. Et le Stade Lavallois, la saison dernière. On t'a invité, Cédric, pour évoquer le rapport aux médias, le rapport des footballeurs aux médias. Pourquoi parfois, c'est vrai que nous parfois on se réunit journalistes en conférence de presse dans zone mixte, on se dit on va rentrer à la rédaction, on n'a rien encore une fois. On a les mêmes poncifs, on a les mêmes réactions tièdes, c'est frustrant. Parce que ce que je veux dire à Guillaume Stéphane qui est avec nous également, qui est responsable du passeport pro au sein de l'UNFP, et Sébastien Pietri qui a été journaliste, donc il le sait bien également, animateur de ce passeport pro, c'est qu'on n'attend pas forcément, en tout cas pas tous les journalistes, la phrase polémique. Comme le disait très bien François, on attend également de la sincérité, de la spontanéité, plutôt que des phrases convenues. J'aimerais qu'on parle de ça justement maintenant avec vous, Sébastien. Pourquoi, selon vous, les journalistes se réfugient derrière ces formules consacrées ? L'important, c'est les trois points, match après match, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Parce qu'ils n'ont rien à dire de plus, certains, ou parce qu'ils ont peur de la presse ?
Non, il y a deux points. Alors, il y a surtout un point important, c'est que la première question que je pose aux joueurs, je leur demande en un seul mot de me résumer les journalistes sportifs en un seul mot, et c'est très rapidement on voit qu'il y a une crainte parce qu'il y a le mot buzz qui revient. Il y a voilà scoop. Et en fait les joueurs ont cette image là, c'est à dire qu'ils se disent quand on va devant un journaliste que si on raconte la physionomie du match ou qu'on est content d'avoir marqué ce but et qu'on a pris 3 points pour la course à l'Europe, ça va pas leur suffire, et que en fait dans la tête des joueurs c'est très simple, le journaliste attend la moindre petite phrase, la moindre petite erreur pour justement derrière la capter.
Ce qui n'est pas totalement faux, Sébastien, d'ailleurs.
Pardon.
Ce qui n'est pas totalement faux. Absolument.
Et non, mais en fait, c'est exactement. Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'émissions et on en voit sur Canal, ou même on le voit avec vos petits jingles. Parfois, vous récupérez des petites phrases. Alors, c'est vrai que c'est sous le ton de l'humour, mais en fait, dans la tête des joueurs, ils se disent j'ai pas envie d'être dans ce jingle, j'ai pas envie d'être dans la J+1. Donc, il faut vraiment que je fasse très attention. Et en faisant très attention, et en fait, ils font de l'eau tiède. En fait, ce qu'ils disent, ils font très attention à chaque mot, et au final, peut-être qu'il y aura moins de spontanéité dans les déclaration. Et c'est ça qu'on essaye de travailler, c'est qu'il faut qu'ils gardent leur personnalité, tout simplement, mais il faut leur donner aussi les outils pour ne pas peut-être certains journalistes, malheureusement, qui vont peut-être aller les piéger sur parfois des déclarations d'entraîneurs ou bien des conflits dans le vestiaire, ou certains joueurs peut-être à chaud. Et on parlait, parlait tout à l'heure à juste titre de la zone mixte. Pour moi, c'est la zone de tous les dangers. On travaille énormément là-dessus, beaucoup d'exemples sur la zone mixte là. Et c'est là où malheureusement, les joueurs se laissent aller. Ils sont encore dans l'émotion du match, ils sont à chaud, et c'est là où malheureusement, ils maîtrisent pas leur communication et ils sortent des phrases qui vont être reprises par des journalistes, parfois hors du contexte. Et malheureusement, c'est trop tard, la machine se met en route. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui, dans les 11 clubs pour l'instant où j'ai pu me déplacer avec l'UNFP, à 95%, les joueurs ont quand même une certaine peur du journaliste. Ça c'est important, et il faut le souligner.
Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que maintenant, ils communiquent par eux-mêmes sur les réseaux sociaux, et ils ont une autre image sur les réseaux sociaux que celle qu'ils peuvent donner en zone mixte. C'est vrai, François, il y a des joueurs qu'on a tous connus à l'extérieur, hors micro, hors caméra, qui sont très à l'aise dans l'échange, et une fois en conférence de presse, Dr Jekyll et Mr Hyde.
Ouais, moi j'avais le cas de Eric Abidal dont on a parlé. Exactement. Dans la préparation de l'émission, qui se transformait, et que je découvrais moi dans l'exercice en lui disant mais en fait c'est ton frère jumeau quoi, c'est pas toi, enfin c'est pas celui que je connais à Clairefontaine quand il y a pas un journaliste autour. Bref, mais la question de la défiance vis-à-vis du monde des médias est incarnée par les journalistes. Pour moi, elle est essentiellement due à l'intellect, c'est aux joueurs qui considèrent parfois même à tort qu'il a un déficit intellectuel vis-à-vis
un complexe
du représentant, et il en oui complètement Nico, du représentant des médias, il en nourrit un complexe. On serait surpris, je pense, que si on avait des joueurs de foot qui animaient une émission de télévision sur le monde des médias, je pense qu'on se marrerait et on entendrait peut-être aussi des choses intéressantes. Mais ce complexe là il est difficile pour eux de il est pas impossible, mais difficile de le surmonter, parce que ça part de la préformation et de la formation où ils n'ont pas fait les mêmes études, ils n'ont pas forcément pensé qu'à ça comme un moyen de réussir, mais comme un outil, contrairement à nous. Et du coup, ils se retrouvent
eux-mêmes, ils se mettent en difficulté. Ouais, alors qu'on leur demande pas de faire des phrases avec
d'accord, François, des mots, après, des... à charge,
Damien,
ouais. À charge aux joueurs de se cultiver aussi par lui-même. Encore une fois, tu vas aux États-Unis, tous mes collègues, les joueurs avec qui on voyageait, parfois on se fait des longs voyages de 5 heures, 6 heures, ils étaient sur leur téléphone, mais ils étaient pas sur Twitter ou sur Instagram, ils étaient sur TED, ils essayaient de, ils lisaient les journaux, ils essayaient un peu de s'imprégner du monde
dans lequel ils vivent, ainsi de suite. Les États-Unis, c'est une autre approche.
Pourquoi ne pas prendre toujours le bon exemple, de voir un nivellement par le haut, même en tant que quand on est joueur aujourd'hui. Si je suis jeune joueur, je prends qui comme exemple? Mais je prends Kylian Mbappé dans ma communication, dans sa manière de parler aux journalistes, de faire passer les messages. C'est ça. Pourquoi on va toujours prendre exemple sur le mauvais élève? Non, le joueur a une responsabilité aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il fait? Attends, je demande à Sébastien Pestri qui nous écoute, qui est avec nous également par téléphone. Mbappé, Sébastien, effectivement, tout le monde n'est pas Kylian Mbappé sur tous les terrains, sur le terrain également en zone mixte ou en conférence de presse. Sébastien, c'est un exemple, Kylian Mbappé?
Alors c'est assez rigolo parce que quand je demande aux joueurs est-ce qu'il y a un joueur pour eux au niveau de la communication qui est une référence pour eux et tous me sortent Kylian Mbappé. Voilà, Kylian Mbappé, il arrive à s'exprimer facilement et pour les joueurs là, il fait des longues phrases, il est toujours avec le sourire devant les caméras. Mais ce que j'essaie de leur expliquer aussi, c'est que malgré le fait que Kylian Mbappé en termes de communication pour eux c'est quelque chose voilà qui est parfait et qui y a pas de souci. Je rappelle aussi qu'il a Mbappé par exemple après le carton rouge qu'il a eu à Nîmes en zone mixte, il s'est laissé un petit peu emporter devant les micros en cautionnant en disant que si c'était à refaire avec le carton rouge avec Savanier, il le referait. Donc il cautionnait une sorte de violence. Il est arrivé aussi en retard lors du match face à Marseille, donc sans prendre conscience de l'importance de ce classico pour ses supporters du Paris Saint-Germain, ou bien une déclaration récemment lors des trophées UNFP. Donc oui. On voit que c'est dire qu'une communication, parfaite pour moi, c'est difficile, ça n'existe pas.
C'est comme si
vous à RMC vous mettez quatre consultants à regarder un match. Je reste persuadé que les quatre consultants ne vont pas sortir le même homme du match ou dire que c'est cette équipe-là qui était meilleure et qui devait l'emporter.
Et en plus, Sébastien, c'est pas un bon exemple Kylian Mbappé. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi parce que c'est un extraterrestre aussi pour ça.
Oui, il a
Philippe Tournon qui a géré l'équipe de France de 83 à la 2018. Il m'a dit, moi, en 34 ans de carrière, j'ai jamais vu un gamin comme lui.
C'est un cas exceptionnel. C'est un cas extraordinaire Kylian. Au sens strict du terme.
Et vous avez raison parce qu'il y a des jeunes que j'ai pu former avec l'UNFP qui me disaient dans la mise en situation devant la caméra, je les voyais qui se forçaient à faire des phrases très longues à expliquer. Et dans le débriefing, je dis mais tu es mal à l'aise, tu as du mal à maîtriser tes propos. Et ils me disent oui mais en fait je voudrais faire comme Kylian Mbappé, je voudrais vraiment faire des longues phrases.
C'est une erreur.
J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure et qui est important. Gardez votre personnalité.
C'est ça, Cédric.
Exactement ce que dit Sébastien, c'est que même à travers le module que l'on fait de Media Training, on voit clairement qu'on nous demande d'être avant tout nous-mêmes, avec notre personnalité, notre caractère, et de pas surjouer, de pas essayer de jouer un rôle. Simplement d'être nous-mêmes et de justement pouvoir faire passer le message que l'on veut faire passer de la manière la plus compréhensive possible.
Cédric, est-ce que quand tu te présentais toi en zone mixte, c'est la zone interview après les matchs, dans le jargon, est-ce que c'était un passage difficile? Tu appréhendais de te présenter face à la presse?
Non, après forcément ça dépend les matchs. Si c'est un match où on en a pris 4 ou 5 et que étant donné que je suis le gardien, les journalistes, on va dire qu'on se prépare un peu plus avant d'arriver en zone mixte.
Ou alors, comme le faisait Sylvain Wiltord, tu passes devant la zone mixte en faisant semblant d'avoir un coup de téléphone.
Qui est devenu consultant par la suite.
Voilà, le téléphone à l'oreille, alors que personne ne vous filme. Et tu fais semblant de passer.
Ouais, mais c'est pas la bonne méthode, je trouve, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi assumer et puis il faut savoir s'exprimer autant dans les bons que dans les mauvais moments.
Cédric. Cédric, ce que tu dis, c'est une petite minorité qui va penser comme toi. Quand ça rigole pas, voire quand c'est pas seulement des défaites, mais des défaites qui entraînent des éliminations, je peux te dire que sur les pour en faire un petit peu sur les matchs d'Europa League ou de Champions League, quand il y a eu des éliminations, moi j'ai vu des clubs avec... Alors l'entraîneur, souvent l'entraîneur quand même qui se plie à l'exercice,
bah, il a pas,
et puis même le minimum requis par l'UEFA, c'est-à-dire 4 joueurs après le match, tu les as pas. Hein. Ouais. Tu les as pas, voire il est arrivé, je ne vais pas citer les clubs, zéro. Pas un joueur qui vient de parler.
Vous vous souvenez de l'exemple de Zlatan qui disait devant la presse, il y a personne qui parle à la presse, tout le monde me suit, et puis tout le monde suivait. Du coup, il y avait personne qui avait parlé.
C'est vrai que ça, c'est un peu dommage.
Ils font comme toi.
C'est un peu dommage parce qu'à un moment donné, il faut essayer de faire face et malheureusement, après, des fois, il y a des consignes aussi. C'est-à-dire que quand le club est vraiment dans la tourmente,
voilà.
Dans le vestiaire, il y a soit le directeur sportif ou le chargé de communication ou quoi, qui dit bon ben les gars on s'exprime pas
on peut parler d'amende.
Attends, ouais, dans un instant je donne la parole à Guillaume Stéphane également qui est le responsable du passeport pro. Avec combien de clubs vous travaillez sur l'aspect communication, justement sur l'atelier communication?
Sur l'atelier communication, il y a 11 clubs qui ont fait appel.
Et essentiellement des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, où c'est réparti?
Plutôt des clubs de Ligue 1, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après, c'est vrai que dans les gros clubs type Paris Saint-Germain, ils travaillent avec quelqu'un du club, en tout cas ils ont déjà leur module, que ce soit dans les réseaux sociaux, les médias training. Mais il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas les ressources humaines ou financières pour faire ces modules-là, qui font appel à nous.
François, vous pouvez parler des amendes.
Les amendes. Alors, les amendes, elles sont pratiquées par exemple à l'échelle européenne. Il faut vraiment qu'il y ait une infraction constatée au règlement d'une compétition. Et moi, il m'est arrivé parfois de souligner qu'il y avait certains joueurs, certains clubs qui ne remplissaient pas leurs obligations, hein, puisque comme Sébastien ou Cédric l'ont dit, à un moment donné, t'as la diététique, t'as l'entraînement, t'as la récupération, et tu as aussi le fait de t'exprimer devant les médias quand tu es sollicité. Pour moi, ça fait partie du boulot et je le disais aux joueurs quand ils voulaient bien m'écouter. Mais tu es sanctionné quand tu ne le fais pas. Comme ton club te sanctionne quand tu as pris 5 kilos quand tu reviens pour faire ta préparation. Bref, tu es sanctionné. Aux États-Unis, puisque Damien y a joué, je vais vous donner un exemple. Dans le foot US, un joueur qui oublie de se présenter à un point presse semaine de Super Bowl, parce qu'il voulait pas, hein, c'est juste qu'il avait oublié de mettre son réveil et il a continué à faire sa sieste, c'est $25,000
d'amende.
Et c'est le joueur qui les paye, je vous garantis, oui. Hein, c'est pas le club qui va les payer pour lui. Hein. Et ben, dans le foot, en général, alors peut-être pas en MLS, je pense même sûrement pas en MLS, mais dans le foot en général, donc sorti des États-Unis à l'échelle internationale, on va peut-être enlever le Japon, aller peut-être le Canada, parce que c'est des cultures encore évoluées, mais tous les autres pays, y compris en Europe, mais c'est très très rare les amendes, c'est très rare. Et je peux vous garantir que si tu vas taper dans le portefeuille, ils y réfléchissent.
Sébastien ou Guillaume?
Non, oui, je voulais juste rajouter, vous avez entièrement raison, et il y a un point important pour parler des amendes. J'ai pu travailler pour OMTV, qui était la chaîne de l'Olympique de Marseille, et dans les contrats, les joueurs devaient aller s'exprimer, on était le média du club, et vous avez raison, à 90%, les joueurs ne venaient pas, il n'y avait aucune amende qui était donnée aux joueurs, même s'ils ne s'exprimaient pas sur la chaîne du club.
Sébastien Pietri avec nous, animateur du Passeport Pro, Guillaume Stéphane également responsable du Passeport Pro, Cédric Mensa avec nous dans l'after, Damien Périnel et François Manardeau. On déroule encore ce thème passionnant ensemble, comment arriver à mieux travailler ensemble, comment faire en sorte que les journalistes soient pas vus comme des ennemis et les footballeurs comme des acteurs qui n'ont rien à nous dire. On continue le débat et d'en parler dans un instant dans l'after, bien sûr, avec tous nos invités. On est là jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Jusqu'à minuit avec Damien Périnel, avec François Manardeau et nos invités, Cédric Mensa, gardien de football professionnel, également Guillaume Stéphane, responsable du Passeport Pro, et Sébastien Pietri, animateur du Passeport Pro dans plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, thème de la soirée, footballeur et communication, bien sûr. Un appel au 32-16 de Gabriel, supporter du PSG. Gabriel, merci d'avoir appelé.
Bonsoir à vous tous.
Et bonjour.
Je vais pas le faire individuellement parce que vous êtes nombreux ce soir.
Ouais, on est nombreux ce soir. Il y a un vrai plateau. Gabriel, j'espère que tu apprécies le sujet et le débat.
Oui, c'est très intéressant. Ça change parfois. C'est un peu au-dessus de ce qu'on peut avoir parfois. Non, c'est cool. C'est un débat super intéressant.
Tiens, je pose la question, toi. Est-ce qu'un bon communicant dans le foot est forcément une grande gueule? Et est-ce qu'un mauvais communicant est forcément un joueur qui ferait que de la langue de bois?
Je vais dire oui et non. Enfin, pas forcément en fait. Dans votre, enfin, j'écoute, je vous ai entendu depuis tout à l'heure. Il y a une chose qui est importante dans la communication, c'est déjà la base de la communication, c'est de savoir parler. Peu importe ce que vous allez dire, c'est de savoir parler et être capable d'assumer en fait ce que vous allez dire. Or aujourd'hui, ce dont on se rend compte, malheureusement, c'est qu'une grande majorité des footballeurs a du mal à s'exprimer tout court. Donc forcément, voilà, quand vous arrivez en plus devant les médias, vous avez un stress, le trac, de la même manière que si vous étiez un acteur de théâtre, de devoir parler devant du monde. Et je pense que ça, d'une certaine manière, ça bloque le joueur. Et vous vous retrouvez en fait dans des poncifs, parce que c'est facile de sortir un poncif, oui, les trois points c'est le plus important, machin, ainsi de suite. Et vous êtes dans quelque chose de convenu sur lequel vous maîtrisez parce que c'est facile. Moi, par exemple, un joueur que j'aime bien, c'est Meunier. Il se pose pas de questions en fait. Je dis pas que sa communication est maîtrisée, qu'elle est bonne ou mauvaise, mais c'est quelqu'un d'honnête et qui parle sans filtre.
Et ça lui a tiré des problèmes aussi, d'ailleurs, Gabriel.
Oui, ça lui entraîne des problèmes, mais néanmoins, quand il dit quelque chose, il l'assume. Moi, je me souviens de son interview qui n'avait pas été donnée à un média français, mais je crois un média belge, à l'issue de la Coupe du Monde, où il revenait justement sur la victoire de l'équipe de France face à eux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été extraites de cette interview, qui ont été sorties de leur contexte, mais moi, j'ai lu l'interview en entier, et franchement, c'était quelqu'un de posé, qui avait réfléchi aux choses, et qui assumait totalement ses propos. C'est quelqu'un qui a toujours assumé ses propos.
Oui, qui parlait de sa frustration également, parfois, de son avenir. C'est pas forcément de la maladresse, c'est de l'authenticité, en tout cas de la spontanéité.
C'est ça. Après, moi, ce que je constate, ça fait longtemps maintenant que je suis le football, je vais pas revenir sur Kylian Mbappé parce que c'est quand même effectivement un extraterrestre. Moi, ce que je note, c'est que dans la communication de Kylian Mbappé, et ce qui très certainement l'aide, c'est que d'une part, il a été préparé depuis qu'il est très jeune. D'autre part, il a toujours été entouré de sa cellule familiale, ce qui est rassurant.
Oui.
Et je pense que derrière, en plus, d'un point de vue scolaire, et ça, malheureusement, à mon avis, c'est aussi un gros manque au niveau globalement des footballeurs. Ils parlent français correctement. Je suis désolé, quand vous entendez Kylian Mbappé, et je vais faire deux exemples exprès, quand vous entendez Kylian Mbappé s'exprimer, Nabil Fekir s'exprimer, vous n'avez pas le même niveau de connaissance de la langue française. Donc forcément déjà, votre communication, elle est aussi limitée.
Après, oui, non, t'as raison.
Capacité à vous exprimer.
La richesse du vocabulaire compte. Mais moi, je connais des gens qui parlent très bien français hors caméra et dès qu'ils sont devant une caméra et un micro, perdent leurs moyens. Il y a du stress, de la timidité également.
Et ça se travaille. Ça, ouais. Effectivement, c'est quelque chose.
Sébastien Pitry, j'aimerais avoir votre avis là-dessus.
Oui, tout à fait. Alors, l'auditeur a parfaitement raison. Après, pour revenir sur l'exemple qu'il donne de Meunier, il faut pas. Alors, effectivement, c'est un joueur qui est sincère dans sa communication. Ça lui a posé quand même des problèmes. Hein. On n'oublie pas le like.
Oui, mais alors, on dit quoi ça veut dire quoi, Sébastien? On lui demande d'être moins sincère pour avoir moins de problèmes. C'est quoi la logique en fait?
C'est pas être moins sincère. C'est tout simplement en fait quand vous êtes un joueur du Paris Saint-Germain, vous représentez l'institution du PSG. Vous devez prendre conscience que liker un tifo des supporters de l'OM, forcément, vous allez vous mettre à dos les supporters du Paris Saint-Germain. C'est ça aussi, c'est que les joueurs doivent prendre conscience.
Mais il n'y a pas besoin de média training, pardon, pour ça. Sébastien, il n'y a pas besoin de média training. C'est un directeur sportif.
Vous avez un directeur de communication qui doit gérer effectivement le problème. C'est un autre problème. C'est pour dire que voilà, même un joueur qui peut bien maîtriser sa communication peut faire des erreurs. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de communication parfaite. On en revient au propos sur Kylian Mbappé, quoi. Après, pour répondre à l'auditeur, je pense qu'il serait agréablement surpris de voir quand même le niveau de vocabulaire et d'expression des joueurs de foot devant la caméra lors des média training par l'UNFP. Je pense qu'il y a un vrai problème aussi. Je pense qu'il y a le tract. Il y a le tract tout simplement parce que les joueurs n'ont pas l'habitude. C'est tout simple. Mettez-vous à 17 ans ou 18 ans devant une caméra, forcément vous serez pas à l'aise. Alors oui, il y a des exemples extraterrestres comme vous dites avec Mbappé, mais 95% des joueurs, il faut leur donner les clés. Voilà, c'est le travail.
Exactement. C'est un travail sur soi.
C'est le travail de passeport pro, c'est le travail aussi que réalise l'UNFP.
Oui. Non, mais on l'a compris. Moi, je voyais.
Attends, juste, on va remercier Gabriel qui nous a appelé au 32-16.
Mais moi, par rapport à Gabriel.
Ah, vas-y, Gabriel, reste là. Vas-y.
Non, François. Gabriel, bonsoir. Dire, peu importe ce que vous dites, c'est comment vous le dites avec un français de qualité. Non, moi, là, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas dire n'importe quoi sous couvert que vous maîtrisez votre langue. maternelle ou une autre. Ce qui est important,
c'est pas ce qu'il a dit. Ouais.
Mais j'ai entendu, j'ai bien entendu.
Vas-y, François,
peu importe ce que vous dites. Peu importe ce que vous allez dire, c'est il faut le dire. Vous l'avez pas dit comme ça dans l'enchaînement, mais ensuite vous avez rajouté. Il faut que le français soit maîtrisé. Mais non, il faut savoir ce qu'on va dire. Après, il faut l'exprimer de manière claire, qu'il soit pas trop sophistiqué, mais il faut l'exprimer de manière claire. Mais on peut pas dire peu importe ce qu'on dit. Non, c'est pas qu'une question de charisme et de style.
Ça, parce que non,
charismatiquement parlant,
vas-y Gabriel. Vas-y Gabriel.
Vas-y
Gabriel.
Je vais préciser mon propos. Effectivement, quand je dis maîtriser le français, c'est pas forcément parler de façon sophistiquée ou distinguée. C'est pas ça. C'est-à-dire que utiliser les mots justes pour exprimer son idée et ensuite assumer son idée. Attention, je parle pas, je demande pas de faire du Stéphane Bern. C'est pas ça que moi j'attends d'un joueur de football. En revanche, j'attends des phrases un minimum, à minima construites qui veulent dire quelque chose. Et effectivement, j'ai bien conscience que les joueurs ne peuvent pas non plus aller contre l'institution, dire tout et n'importe quoi, ça reste des employés. Et effectivement, la communication fait partie de leur métier et ils se doivent
okay, Gabriel,
de travailler
moi,
là-dessus.
Cédric Mensah,
j'aimerais rebondir sur ce que dit Gabriel, l'auditeur, c'est que je suis pas tout à fait d'accord aussi parce que à un moment donné, je vais prendre un exemple concret. En fin de saison dernière, on voit Florian Thauvin qui parle devant les médias, qui au début commence à parler du match, à dire, à débattre, et puis finalement il dit bah, de toute façon. On va pas se qualifier pour la Champions League. Enfin,
oui.
Il dit des vérités, mais
et ça a plu.
Voilà, et ça a plu. C'est ce que j'allais dire. Et finalement, quand on voit au niveau de l'opinion publique des supporters, ben ils ont adhéré parce qu'ils se sont dit, ben en fait, il dit la vérité. Il a, à un moment donné, il a dit ce qu'il pensait au fond de lui, et ça a plu aux supporters. Et pourtant, il a pas pris des pincettes, il a pas déroulé un vocabulaire.
Même si je suis pas sûr que la direction de l'Olympique de Marseille ait apprécié sa sortie.
Oui, mais par exemple, du fait de l'opinion publique, il a pas pu. Enfin,
c'est pareil. Finalement, la vérité est à double tranchant. On parlait de Meunier, qui parle bien pour nous. Journaliste, c'est un très bon client. Parce qu'on est face à quelqu'un qui non seulement est spontané, authentique et qui dit des choses, ce qui n'est pas toujours le cas. Neymar, exemple, qui dit la vérité, sa vérité, même s'il y a une stratégie. Quand il dit mon meilleur souvenir, à ma question, quel est votre meilleur souvenir de footballeur? C'est la remontada. Mais sûrement, il vit un grand match, un retournement de situation improbable dans l'histoire. Sauf qu'encore une fois, Sébastien,
c'est une maladresse.
C'est de la maladresse.
C'est maladresse, mais il dit la vérité. Ouais. Donc on lui reproche de dire la vérité.
Mais attends, mais c'est ça la vérité.
C'est ça la vérité. On lui reproche de dire la vérité.
C'est la vérité, c'est la sienne.
Et donc on va lui apprendre à ne plus dire la vérité.
Non, mais pas du tout, Nico. C'est comme si toi tu dis demain Europe 1, c'est la meilleure station. Tu vas dire peut-être ta vérité, mais en tant que salarié de RMC, c'est pas la bonne.
C'est pas ce qu'il a dit. Il parle de son souvenir personnel. Voilà, bref. Vas-y, Sébastien.
Salarié du PSG, Neymar.
Ouais, non, mais Neymar qui dit la vérité, je suis d'accord avec vous. Mais il le dit dans quel contexte? On est en train de parler du mercato et d'un possible départ. Il a envie de quitter le Paris Saint-Germain et il fait référence à la remontada. C'est compliqué de tenir de telles.
Oui, dans une stratégie. Mais s'il avait fait il y a six mois, il y aurait eu beaucoup de réactions aussi, Sébastien.
C'est comme Florian Thauvin au mois d'avril, vous avez raison. Oui, il dit la vérité à un moment. Il se lâche en disant ce que je suis en train de dire, c'est des banalités. Mais le problème, c'est que l'équipe de l'OM à ce moment-là, au mois d'avril, elle est quand même toujours mathématiquement en course pour la Ligue des Champions. C'est compliqué pour l'institution, pour le président et l'entraîneur de remotiver les joueurs derrière. Alors vous avez l'un des cadres qui dit que c'est terminé et qu'on ne jouera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Vous voyez, c'est le moment où vous le dites. C'est ça aussi, de maîtriser sa communication. Vous pouvez pas tout dire à n'importe quel moment.
Parfaitement, parfaitement.
Je remercie Gabriel. Merci Gabriel. D'avoir un peu 32-16. Merci beaucoup Gabriel. Damien, merci, tu voulais réagir.
Non, mais au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on recherche. Parce que si on utilise des poncifs, on va dire il dira un intéressant. Si on utilise trop le franc-parler et ce qu'on pense vraiment, on va dire il a pas le droit, c'est une erreur de communication envers son club. Mais au bout d'un moment, en tant que joueur, on se place où? Moi, franchement, regardez, là, il y a eu le communiqué du PSG sur Neymar. On était les premiers à être contents qu'il y ait au moins de la sincérité dans ce communiqué. Quand Tourelle fait...
C'est ce que Leonardo, en tout cas, essaye d'apporter au PSG depuis son retour.
Quand Tourelle fait une intervention d'après-match lors de leur dernier match contre, je sais plus, Nuremberg, je crois, quelque chose comme ça. Il fait 20 minutes d'interview où il n'y a aucun filtre. Il dit toutes ses vérités. Nous sommes les premiers contents d'entendre ça. Donc, et pourtant, il va contre le soi-disant le bien-pensant du club actuellement. Faut pas faire de vagues avec Neymar, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui?
Ben, il y a communication, c'est les
mots qu'on va employer et les messages qu'on veut faire passer. Mais
ce qu'il faut, c'est des bons acteurs pour les incarner. Ce qu'il te faut, c'est des bons acteurs pour les incarner, Damien. Parce que tu peux être le meilleur conseiller en communication ou le pire. Ben, si t'es le pire et que t'as les bons acteurs, ben, crois-moi, ça passera quand même. Et si t'es le meilleur et que t'as des chairs, t'as des baltringues, eh ben, ça passera pas. Tu pourras faire tous les efforts que tu veux. Il te faut des bons acteurs, des mecs qui anticipent un peu les situations par rapport à mon club, mes coéquipiers, mon avenir. Ça fait déjà beaucoup d'éléments. Mon âge, le timing aussi, comme Sébastien l'a si bien dit. Eh ben, tout ça, c'est un art. Tu as des qualités à la base ou tu les as pas. Déjà, bon, ben, tu pars avec un handicap ou pas. Et puis après, il y a le travail que tu peux faire dedans. Si, comme l'a dit Cédric aussi, tu considères que ça fait partie, comme je le crois, ça fait partie de ton boulot. Et là, je sais qu'en face de toi, je prêche un convaincu. C'est une minorité.
Guillaume Stéphane est avec nous aussi. Guillaume, qui est le responsable du passeport pro. C'est devenu quasiment indispensable de créer cet atelier communication.
Oui, parce que on parle beaucoup de média training, mais il y a également les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a plus du tout la même communication. Oui. Il y a une multitude d'acteurs, il y a une multitude de journalistes, une multitude
Parce qu'il y a 30 ans, Guillaume, il y avait deux journalistes après un match qui interrogeaient les joueurs. Aujourd'hui, au Parc des Princes, t'as 40 caméras.
Voilà. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de les mettre dans toutes les situations pour qu'ils puissent s'adapter entre un moment d'euphorie après un match gagné, un moment où justement l'entraîneur a mis le joueur sur le banc après des défaites, justement après plusieurs matchs pas dans le groupe, pour que justement les joueurs puissent être confrontés à tous ces types de situations. Et après, c'est la pratique de toute façon. On l'a dit assez lorsqu'on a 17, 18, 19 ans, qu'on soit footballeur ou pas, répondre à une caméra devant des dizaines de milliers de personnes qui peuvent être derrière, c'est pas évident. Donc après, il faut aussi être indulgent par rapport à ça. Et en tout cas, nous, notre objectif, c'est de leur donner des bases. Et après, à charge à eux également de travailler de leur côté.
Tiens, messieurs, on va jouer un petit peu rapidement, alors qu'on découvre un document que nous a livré François Malardeau sur les pièges à éviter, en tout cas ce qu'il faut savoir
non,
faire.
Non, c'est pas les pièges.
Quand vous parlez, ça on le voit sur RMC Sport News, à la c'est télé, et on pourra le raconter également, François.
Non, c'est par rapport. Alors ça, sans trahir le secret, c'est ce qu'on donnait pour la formation en média training pour les U16 et pour les arbitres
équipe
aussi,
de France.
On va le lire. Internationaux. On va le lire.
Vas-y.
Bien. Eh bien, voilà une chose qui est intéressante pour que les joueurs comprennent comment les médias fonctionnent, parce que c'est pas tout de savoir s'exprimer, ou savoir qui tu as en face de toi. Quand tu parles à la télévision, 75% de ce qu'on va retenir, ben c'est ton image. On pourrait en prendre de la graine d'ailleurs ici. 80% en radio de ce qu'on va retenir, c'est ta capacité à bien raconter une histoire. Donc 40% de ces 80, c'est le ton de ta voix. Et enfin, très important, la presse écrite, qui est souvent leader d'opinion. Alors, en revanche, c'est 100% de ce que vous allez dire. C'est pas la manière. Là, pour le coup, c'est vraiment le fond.
Voilà, le document de la Fédération. Quel honneur de récupérer un document
oui,
de la Fédération.
Oui, j'espère qu'ils vont pas s'exciter à la Fédé.
Hein, football. Un truc qui date, messieurs, on va jouer rapidement. Oui, non, oui, non. J'ai quelques noms là. Vous allez me dire s'ils étaient bons dans l'ensemble, dans leur communication. Cédric Mensah, Thierry Henry, bon, pas bon.
Bon.
Damien,
Joker.
Surdoué.
François,
surdoué.
Sébastien,
peut mieux faire.
Guillaume,
bon.
Raymond Domenech, Cédric. Ok, j'ai compris.
Joker. Bah non, pas bon.
Pouah, c'est compliqué parce que moi j'étais acteur là-dedans.
En 5 secondes.
Je fais beaucoup de temps. Non, oui, pas bon. Oui.
Christian, Guillaume, pardon.
Mais très bon orateur.
Particulier, on va dire.
Sébastien.
Je m'abstiens, là, on va dire.
Et le dernier.
Bah non, la communication, là.
Le dernier, Julien Stéphane. Julien Stéphane, bon ou pas?
Bon communicant.
Évidemment.
Bah, très bon.
Très bon, ouais.
Très bon, je trouve.
Ouais. Sébastien.
Ah, c'est excellent.
Et Guillaume.
Exceptionnel.
Merci Guillaume.
On l'a pas cité, c'était Giroud qui était exceptionnel.
Giroud aussi. Cantona, Gourcuff, Deschamps, on aurait pu en faire énormément. Ouais. Bien sûr. Merci d'avoir participé à ce débat, c'était un régal. Cédric Mensah qui cherche un club gardien de foot professionnel, 30 ans sur le marché et stagiaire à l'UNFP. Merci également à Sébastien Pietri et à Guillaume Stéphane, François Bernardo. Et
merci
également Damien Périnel. L'affaire est terminée. Rendez-vous demain à partir de 21h. Excellente soirée à tous sur RMC.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable. Pour plus. D'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Moi je suis pour le plus avec le plus. Mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Le dernier RMC. L'After Foot.